10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, c'est les informés exceptionnellement. Tous les matins, de 10h à 11h, nous sommes ensemble. J'ai envie de vous dire, on est à quelques heures, à quelques jours de ce premier tour. Et bon, il y a de quoi, effectivement, les indicateurs sont pas bons, voilà, clochette, aïe, 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 voilà, j'ai envie de passer un coup de gueule, mais il faut absolument que vous alliez vraiment, comment dirais-je, vous diriger vers les urnes pour pouvoir accomplir votre devoir civique. Il est très important, chers amis auditeurs, parce que la situation, elle est particulière. Allez, la présidentielle, Le Pen qui est en forte hausse, Macron qui se tasse, ça c'est le premier sujet, parce que les sondages, le tout dernier sondage, la participation elle est en hausse, mais Marine Le Pen, elle risque, elle, et elle progresse. Vous savez ce que dit la presse étrangère? Elle dit tout simplement qu'il y a un risque de voir Marine Le Pen présidente. Elle dit ça là, la presse étrangère. La presse étrangère, elle se préoccupe justement en posant une question fondamentale. La question que, d'ailleurs, très peu se pose, c'est qu'il y a cette probabilité que Marine Le Pen se retrouve devant Macron. La presse étrangère pose cette question. On la posera également. Ensuite, après, nous nous intéresserons, vous savez, à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron et sa fragilité. Justement, pourquoi dans tous les sondages, quelle lecture doit-on avoir? Et dans tous les sondages, Macron perd du terrain. Pour quelle raison? Et puis, de l'autre, nous avons Jean-Luc Mélenchon qui, lui, est nettement en progression. Les quartiers populaires, les oubliés de cette campagne des candidats. Pour quelle raison? Et puis finalement, est-ce qu'ils s'intéressent à cette élection présidentielle? Vont-ils se mobiliser? Les questions qu'on pose, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan.
Honneur aux femmes, tout de suite, celle que je reçois, elle est élue à Saint-Maurice. Elle s'appelle Katia Burrier. Bonjour Katia Burrier.
Bonjour.
Ça va?
Oui, bonjour.
Pas trop tendu pour cette première?
Bonjour à tous, et à tous, un petit peu quand même.
Un petit peu, bon. Élue à Saint-Maurice, En Marche.
En Marche, oui.
Absolument. Tout va bien?
Tout va très bien.
Bon, super. À vos côtés, c'est Bruno Pomard. Je ne le présente même plus. Bruno Pomard, évidemment, ancien du RAID, fondateur de la fondation RAID Aventure. Que de choses d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, même aussi chroniqueur chez Hanouna, Cyril Hanouna qu'on salue chaleureusement. Bruno Pomard, bonjour.
Salut Adil, et puis content d'être encore ici à Beurre FM, parce qu'on peut dire ce qu'on veut à Beurre FM, mais ce que tu as dit tout à l'heure en introduction, c'est important, allez voter, c'est essentiel. C'est
vous un devoir raison, républicain. Bruno, c'est vrai. Pourquoi vous n'êtes pas libre dans les autres stations?
Si, bien sûr. Non, bon. Mais je veux dire qu'à Beurre FM, c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on pense, et ça c'est essentiel, et puis avec une variété d'intervenants,
complètement.
Ça c'est essentiel.
Jimmy Dalidou, c'est le représentant du syndicat, donc CGT, il est auteur aussi également. Bonjour mon cher Jimmy
Dalidou. Bonsoir Adil, bonsoir.
Comment ça va?
Ouais, ça va.
Bon, bah écoutez, bah très bien, je vous remercie. Tout de suite, grosse inquiétude, vous savez quoi? C'est cette présidentielle. Dimanche prochain, les amis, il y a de quoi s'inquiéter, puisque Le Pen, vous savez quoi, elle est en forte hausse. Selon un sondage qui a été publié, qui la place quasiment à 22%, Macron perd du terrain, il est à 26%, et Jean-Luc Mélenchon qui monte 16%, certains d'ailleurs parlent même de 17%. Et puis, l'écart se creuse entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Dites-moi, je vais commencer par Katia Burrier. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Est-ce qu'on a une explication, la raison pour laquelle Marine Le Pen est en hausse? Vous savez quoi? Je vais même vous apprendre quelque chose, peut-être que vous le savez. C'est que la presse étrangère, il y a des interrogations de la presse étrangère qui disent possible victoire de Marine Le Pen. Katia Burrier.
Alors tout d'abord, il faut penser que jusqu'à présent, on pensait que Emmanuel Macron allait être élu facilement. Tout le monde disait 30%, ça y est, les choses sont faites. Et on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. Donc en effet, on est très inquiets. On est sur le terrain tous les jours, nous les militants, pour essayer d'inciter les gens à aller voter, comme vous le disiez très justement tout à l'heure.
Absolument.
Il faut absolument aller voter parce qu'à côté de ça, les extrêmes prennent le dessus et risquent de passer en effet et qu'on se retrouve avec peut-être. Le Rassemblement National, président demain, sera peut-être présidente demain.
Une finale, tout au moins.
Une finale, oui. Il faut faire attention. C'est bien pour ça qu'il faut inciter les gens à aller voter et ne pas laisser les extrêmes prendre le dessus dans les jours.
Mais on a une explication sur le fait, Katia Burrier, de la progression, de la hausse, d'ailleurs, de Marine Le Pen.
Marine Le Pen a changé
subitement,
totalement sa manière de se comporter. Une posture totalement différente sur cette campagne. En 2017, elle était totalement différente, très offensive.
Elle a changé?
Très agressive, totalement, si vous voulez. le voyez, elle est beaucoup plus dans le pathos, dans l'affect. Quand elle parle de sa nièce, elle a quasiment les larmes aux yeux. Donc tout ça, ça donne une dimension humaine à cette femme. Et les idées sont toujours les mêmes, sont toujours des idées d'extrême droite, très très dures. Mais malgré tout, les gens se laissent aller à penser qu'elle est beaucoup moins dure que Zemmour, par exemple, qu'Éric Zemmour, et donc partent vers ce type de personnes. Et au détriment d'Emmanuel Macron aujourd'hui.
Absolument. Bruno Pomard, tiens, je voudrais vous entendre là-dessus.
Ben, je crois que ça a été dit par Katia. Oui, elle a bien manœuvré Marine Le Pen. Elle s'est adoucie, elle s'est arrondie. C'est plus Jean-Marie Le Pen, évidemment. Et le méchant canard, c'est qui? C'est Zemmour. Donc tout le monde s'est fixé. Et tous les médias, vous tous, ça fait tous les médias se sont fixés sur Zemmour. Et elle s'est arrondie. Elle a rien dit. Elle a fait le dos rond, comme on dit. Et puis mine de rien, elle gagne des voix. Et je trouve que la stratégie est intéressante. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on le dit, quand vous dites, Adil, que la presse étrangère dit Marine Le Pen risque d'arriver au pouvoir. Ça fait 30 ans qu'on dit, attention, le Front National va arriver un jour au pouvoir. On le voit dans d'autres pays européens, hein, attention, les extrêmes sont montés à très haut niveau, même en termes de gouvernement, les Autrichiens et autres. Donc faisons attention de ne pas laisser les extrêmes s'imposer et à un moment donné prendre la place de Macron. Parce que
vous savez, il a crédit de quoi? 48,5% la presse étrangère.
Ah oui, c'est énorme. C'est énorme.
C'est énorme, hein, d'intention de vote, hein, dans l'hypothèse d'un second tour face à Emmanuel Macron, je parle. Hein.
Oui, oui, oui.
C'est énorme, les amis. Hein.
C'est l'abstention qui fera la différence, je pense. Donc les gens doivent aller voter si il faut y aller à tout prix. C'est un devoir, encore une fois, républicain, d'aller mettre le petit papier dans l'urne.
Jamie Dalidou, justement, la participation qui est en hausse. Alors jusqu'ici, on parlait d'une abstention, comme le dit Bruno Pomard, et Marine Le Pen, et la progression.
Il y a deux choses, je crois. La première, c'est que je pense que j'espère que la plupart notamment dans les quartiers populaires, j'espère qu'ils iront voter pour le bon candidat. Et je le répète, je pense pas que ce soit Macron le bon candidat, mais
j'espère qu'ils iront voter le bon candidat. Mais j'espère que
c'est un clochette d'extrême depuis tout à l'heure.
Mais c'est pas à parler, hein.
Vous avez dit.
Ça veut dire que tu préfères qu'il vote Marine Le Pen, c'est ça?
Vous dites, faut pas laisser passer les extrêmes. Malheureusement, on a laissé passer l'extrême violence sociale ces dernières années. Non, pas du tout.
Pas du tout.
Je suis un antifasciste. Je resterai un antifasciste.
Non, mais ça mélange
les. On parle d'extrême. Alors je reviendrai sur les deux points que je voulais mettre en exergue. Le premier point, c'est l'extrême violence sociale qui a été pratiquée contre la population, notamment la classe ouvrière et les couches populaires, ces dernières décennies. Donc après, il ne faut pas s'étonner que certains votent extrême, puisque l'extrême violence sociale a été mise en pratique ces dernières années. On l'a vu pendant les Gilets jaunes. Ensuite, la deuxième chose, moi je ne crois pas, j'en ai déjà parlé, je ne crois pas en c'est une fausse contradiction, Le Pen-Zemmour. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le Zemmour avait... Ça, j'ai toujours dit depuis le début, le rôle de Zemmour, c'est pas d'être élu président de la République.
C'est clair.
Il avait deux rôles. Le premier rôle, c'était de faire, déjà, vendre des livres. Je vous rappellerai que le mec, il est devenu riche.
Ouais,
finirai ce que je dis, c'est que la deuxième chose, le deuxième rôle, c'était de républicaniser le Rassemblement National et qui reste pour moi un parti fasciste.
Vous êtes d'accord avec ce que
je dis, et donc en fait Le Pen ne s'est pas calmé. Le Pen en fait elle a été républicanisée, elle a été dotée de cette étiquette acceptable par la politique de Zemmour.
Oui, mais
c'est une politique
Bruno
organisée
Pomard.
Par
Bruno
les forces
Pomard. Attendez, c'est très important ce qui est en train de se dire là. Bruno Pomard et Katia Durie.
Je reconnais notre ami syndicaliste là. Non, je pense que Marine Le Pen sait faire de la politique, évidemment, ça fait des années et des années qu'elle est en politique, mais elle a su répondre à la demande des Français, et lorsqu'elle est devenue plus européenne, alors qu'elle n'était pas du tout, et tous les thèmes en termes de sécurité qu'elle a récupéré, on se rend compte que ce soit Mme Pécresse, que ce soit Zemmour, que ce soit même le gouvernement actuel, tout le monde a récupéré ces thèses. Avant, on aurait dit, c'est facho. Maintenant, on récupère des thèses sur la sécurité qui ne font plus peur à personne.
Pas tout le monde, parce que je te rappellerai quand même qu'il y a des petits candidats qui sont tout de même importants parce qu'ils sont présents. Moi, je pense notamment à Philippe Poutou qui a une position assez courageuse. Quand même.
Ouais, voilà, quand on dit que la police tue, excusez-moi.
Non, je veux dire, il n'y a pas que 4 candidats dans une élection présidentielle actuellement.
Oui, enfin, 1%, je respecte les électeurs
donc,
de Poutou.
Et tout le monde n'a pas récupéré la ligne de Marine Le Pen. Il y en a qui mettent en exergue une ligne de classe, elle existe, l'orientation de classe, elle existe. La répression qu'il y a eu contre les Gilets jaunes, c'est une répression de classe.
Ça ne fera pas une société.
Et pour l'instant, et alors moi je voudrais revenir sur un élément important, c'est
lequel?
Que de toute façon, face à cette colère sociale qui s'accroît et qui va continuer à s'accroître. De toute façon, pour l'instant, les gens espèrent une porte de sortie électoraliste, mais ça fonctionnera pas. À un moment, cette colère sociale va continuer crescendo jusqu'au moment où
vous êtes d'accord
elle
avec
va
ça
se matérialiser dans les luttes sociales.
Ouais.
Qu'il y ait une colère sociale, c'est clair, on le voit dans la rue, ça je ne peux pas le nier, il ne faut pas le nier de toute façon. À côté de ça, je pense que ça vient d'un passé qui s'est cumulé, plein de choses qui se sont passées auparavant dans les gouvernements successifs, qui font qu'aujourd'hui Emmanuel Macron a récupéré une situation qui a fait que ça a explosé. Avec les réseaux sociaux et tout ça, ça s'est amplifié. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est lui qui a créé ça et qu'il a créé cette violence sociale. Là, la violence sociale vient d'avant.
Ah, ouais, effectivement. Alors j'ai pas dit que c'était Macron était le seul responsable. Donc, non, ce serait irrationnel de dire ça. Il y a eu quand même la trahison du bipolarisme politique droite-gauche, et que ce soit gouvernement de droite comme de gauche, ils ont trahi les intérêts de classe de la population française. Pour moi, c'est clair. Mais en tout cas, il s'y est pris comme un pied. Parce qu'il arrive au pouvoir, la première chose qu'il fait, il supprime SF. C'était certainement pas la chose à faire pour calmer la colère sociale.
Katia Burrier.
Peut-être en termes de communication, je peux reconnaître que parfois il y a eu des maladresses et certains de ces représentants médiatiques n'ont pas été à la hauteur des messages qu'ils devaient passer. Ça, on peut le dire, et ça a été clair, ça a été assez diffusé dans les médias, et je ne vais pas aller à l'encontre de ça. Maintenant, le fond, en tout cas, a été travaillé réellement sur son programme et choses comme ça. Après, il y a eu toute une situation qui a fait qu'il n'a pas pu aller au bout de ce qu'il voulait faire. Donc, il a pu que faire des mises en place de programmes inachevés.
Que ça, tu sais bien, c'est
crise de Covid et tout ça.
Tu sais bien que quand il parlait d'optimisation fiscale face aux paradis fiscaux, il a présenté ça comme une optimisation fiscale, alors qu'on lui disait que cette une-là, elle est issue de la production. Cette valeur a été générée en France, ensuite elle se casse dans les paradis fiscaux. Et la seule chose qu'il trouve à dire, c'est de dire, moi, pour moi, c'est pas un vol de la nation française, et pour moi, ça reste un vol du, parce que ça devrait être réintégré dans le PIB. Clair,
l'optimisation, c'est la règle. On a le droit d'en faire l'optimisation.
Ouais, non, mais c'est pas dire qu'on a le droit que ce soit une bonne chose.
Au niveau éthique, je suis d'accord avec toi.
Moralement parlant, surtout lorsque tu sais qu'on est dans, il y a une carence au niveau économique. La crise économique capitaliste, elle existe, elle est réelle. Et à ce moment-là, il y a 200 milliards cachés dans les paradis fiscaux. Et lui, il appelle ça.
Mais la loi, elle existait du temps de Hollande, qui était socialiste, Jimmy.
Alors, de toute façon, il y a deux solutions. Soit il s'y est pris comme un pied, ou soit il a gardé une position de classe claire.
En même temps, ces lois-là existaient quand il y avait Hollande socialiste.
Ah, mais c'est pour ça que je t'ai dit que, de toute façon, droite-gauche, moi, je suis sur des bases de classe. Je pense qu'il faudrait passer une démocratie directe.
N'empêche que le gouvernement. On continue d'en parler. On va marquer juste cette première pause pub et on se retrouve dans une poignée avec Katia Burrier, Bruno Pomard, Jimmy Dalidou. On est à quelques heures, à quelques jours de ce premier tour et la situation, effectivement, est la moins préoccupante. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan.
Et les informés, vous le savez, c'est ici que ça se passe, de 10h à 11h, avec Katia Burrier, élue en marche pour la ville de Saint-Maurice. Bruno Pomard, ancien du RAID, il est le fondateur de RAID Aventure, et notamment aussi chroniqueur chez Cyril Hanouna. Ensuite, Jimmy Dalidou.
Pendant les Gilets jaunes, ce fut RAID, dis donc.
Ouais, c'est ça. Il a droit à une clochette.
Ouh, pas mal ça.
Il a droit à une clochette. Jimmy Dalidou, qui est représentant syndicaliste CGT, mais également aussi auteur. Madame, messieurs, nous allons poursuivre cette discussion avec notamment, beaucoup parlent d'une fragilité, que Emmanuel Macron se retrouve fragilisé. Pour quelle raison? Et à la fois de l'autre côté, nous avons Jean-Luc Mélenchon, qui risque peut-être aussi de créer la surprise durant ce premier tour. Bruno Pomard.
Bah écoutez, oui, Emmanuel Macron, il est seul contre tous. Alors, il s'est pas exposé, mais d'autres présidents l'ont fait avant, hein, puisqu'on a dit il est pas allé dans les débats, dans les meetings face à d'autres candidats. Bon, il a fait un peu ce qu'ont fait tous les présidentiables.
Sauf que Mélenchon a réduit l'écart.
Pardon.
Mélenchon est venu réduire l'écart.
Oui, il y a peut-être une raison à ça, mais bon, n'empêche qu'on a vu encore son dernier meeting, il a fait près de 40 000 personnes, ce que Zemmour n'a pas été capable de faire. Alors ça veut peut-être rien dire, hein, le fait de voir du monde, mais ça veut dire quand même qu'il y a une certaine base qui est présente pour Macron, mais qu'en même temps, effectivement, il est quelque peu déstabilisé compte tenu de ce qu'on est en train de faire contre lui, et ça fait partie, je dirais, de la politique. Vous allez me parler peut-être de l'affaire McKinsey, c'est évident, mais encore une fois, c'est quelque chose qui ne fait pas de bien à Macron, effectivement, mais bon, maintenant il va devoir s'en défendre, on le dit, hein, il y a deux sujets.
Ce qui me gêne avec votre approche, c'est qu'on a l'impression que Macron, en disant qu'il a été fragilisé, donc indirectement, vous dites qu'à un moment, il était quand même légitime, indirectement. Pour moi, il a Alors, faut pas rappeler une chose. Il faut se rappeler une chose, c'est que c'est le président le plus mal élu de l'histoire de la République française, quand même. Oui. Je vous rappellerai que c'était le taux d'abstention en 2017. C'était le deuxième taux record. Je crois que le premier, c'était dans les années, bref, ça m'en reviendra. C'était la deuxième fois qu'il y avait un taux d'abstention aussi élevé. Et si on met en exergue le fait qu'il y avait Marine Le Pen en face, et pour moi, qui est un épouvantail du capital,
bon, Katia Beurier vous dit dans ce cas-là, dans toutes les élections qui ont suivi,
vu qu'il y a un taux d'abstention qui a été énorme.
Ah non, mais celui-là, en 2017, il était particulièrement élevé. On était à plus de 60% d'abstention.
Les Européennes,
s'ils avaient voté, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis le début, il est fragilisé. Depuis le début, il est fragilisé parce qu'il n'est pas légitime. Et moi, ce que je voudrais, c'est que. Enfin, de toute façon, il y a une chose. Pendant ces élections, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y a un personnage qui est Jean-Luc Mélenchon. Alors moi, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais c'est important de voir que ce gars-là, il va se présenter, même s'il est pas au deuxième tour, de toute façon, il sera l'arbitre. Et que le fait que une partie de l'électorat s'oriente vers Jean-Luc Mélenchon, et je vous rappellerai que il a quand même prôné la nationalisation. Moi, c'est ce que je prône aussi, c'est ce que j'avais proposé, la nationalisation démocratique et populaire. Ça s'est fait. Moi, je pense que il a mis en exergue des idées qui trouvent une certaine résonance sociale. Donc ça, c'est important, c'est un paramètre important. Ça veut dire qu'à un moment, il y a des idées. Concrètement, on commence à parler de nationalisation, on commence à parler de démocratie directe, et ça commence à faire son chemin. Socialement parlant.
Bah, ce qu'a fait un petit peu Macron.
Bruno Pomard,
quand il a fait. Ouais, quand Macron a fait le Tour de France, à un moment donné, avec ses réunions publiques, etc., aucun président ne l'avait fait. Je pense qu'il fait un peu de copier-coller.
Bah d'ailleurs, on attend toujours la réponse, hein, parce que la réponse aux Gilets jaunes, il a remonté les manches, il a dit le beau gosse devant toutes les caméras.
Je comprends que c'est ton rôle syndicaliste, j'entends, mais en même temps, il faut savoir que la crise des Gilets jaunes, ça a permis quand même de débloquer beaucoup, beaucoup de milliards pour aider les entreprises, pour aider ceux qui travaillent au quotidien. On peut rajouter le Covid. C'est des milliards et des milliards qui ont été donnés, qui ont été renfloués pour soutenir des associations. Et je trouve qu'il y a des choses qui ont été faites. On peut pas jeter le bébé avec
les choses qui ont été bloquées.
On revient dans une poignée de minutes. On continue d'en parler. Le quoi de neuf tout de suite, s'il vous plaît. Le quoi de neuf.
Les informés. Le quoi de neuf.
Et le quoi de neuf, vous le savez, c'est ici que ça se passe, comme chaque vendredi, avec Michel Taube. Bonjour, mon cher Michel Taube.
Bonjour Adil et bonjour aux auditeurs de Beurre FM.
Le patron d'Opinion Internationale, mais aussi éditorialiste dans les médias. Et vous avez décidé de consacrer votre billet, justement, à quelques heures, à quelques jours de ce premier tour. La question se pose, va-t-il y avoir un front républicain d'ici dimanche? On vous écoute.
Alors, écoutez, à toutes celles et ceux qui ont connu l'année 2002 ou Jean-Marie Le Pen, à la surprise générale, s'était retrouvé au deuxième tour de l'élection présidentielle et ça avait immédiatement suscité une levée de bouclier et un vrai front républicain qui avait fait que Jacques Chirac l'avait largement emporté 15 jours après. Là, 23 ans après, on est dans une situation beaucoup plus compliquée. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, jusqu'à hier, personne ne croyait vraiment à la possibilité d'un front républicain. C'est-à-dire que des millions de Français qui envisageaient jusque-là de voter Marine Le Pen ou Éric Zemmour puissent se dire « Non, quand même, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça pour mon pays, je ne peux pas faire ça pour la France, je ne peux pas faire ça au nom des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. » Et c'est vrai que depuis 24 heures, c'est extrêmement récent, on sent bruisser de partout des appels à ne pas voter Marine Le Pen. Et à ne pas voter Éric Zemmour, mais surtout à ne pas voter Marine Le Pen. Donc, est-ce que les corps constitués se réveillent enfin? Est-ce que les leaders d'opinion se réveillent enfin et prennent conscience de ce que véritablement, peut-être pour la première fois dans l'histoire de France depuis les années 40, l'extrême droite est peut-être à la porte du pouvoir? Et donc, ce qui me laisse espérer, c'est que vous avez beaucoup de communautés qui se mobilisent pour éviter ce résultat. Mais ce qui moi m'inquiète beaucoup, c'est qu'il y a un acteur qui est complètement absent.
Lequel?
De ce sursaut républicain. Ce sont les acteurs économiques. Il y a deux ans, aux élections régionales, dans les Hauts-de-France notamment, vous aviez eu des chefs d'entreprise qui avaient écrit à leurs salariés en leur disant « ne votez pas Le Pen parce que c'est pas bon pour votre travail, c'est pas bon pour votre salaire ». Aujourd'hui, je n'ai pas vu le président du MEDEF et le secrétaire général de la CFDT pour les salariés, c'est ensemble, vrai. Appeler à une réaction citoyenne.
Vous avez raison.
Et donc, si vous voulez, ma crainte, c'est que ce soit presque trop tard. C'est-à-dire que ce front républicain, cette réaction républicaine, ce sursaut républicain arrive franchement un petit peu tard. Parce que malheureusement, la société a évolué, parce que les problèmes se sont aggravés, parce qu'on a mis aussi la poussière sous le tapis dans bien des problèmes. Et donc, si vous voulez, voilà mon sentiment de dernière minute. Je pense qu'il y a un début de sursaut républicain, mais est-ce qu'il n'est pas trop tardif par rapport au vote de dimanche? Mais enfin, dernier message, si vous me permettez, Adil,
oui.
Votons. C'est un droit et un devoir pour tout citoyen aujourd'hui.
Vous avez raison. Bravo pour ce billet d'humeur. Vous avez extrêmement raison de pointer du doigt, effectivement, là où il y a une grosse inquiétude. Bruno Pomard souhaite simplement vous interpeller. Bruno Pomard.
Oui, salut Michel.
Bonjour Bruno.
Salut. C'est très intéressant ce que tu dis, mais est-ce que tu ne crois pas que ce front républicain viendra par le soutien qu'a Macron quand même de la sphère politique qui est représentée par Édouard Philippe, par ceux de gauche qui sont les maires élus, Le Drian et autres? Il y a quand même des élus, il y a quand même une base d'élus derrière Macron qui vont pousser leurs électeurs à aller voter en faveur de Macron, non? Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, mais la question, c'est pas de voter Macron ou pas Macron. La question, c'est de savoir, parce que comme tu le sais, le tout sauf Macron, ça fonctionne aussi.
Ouais.
Et toi, mon cher Bruno, qui est un ancien policier, tu sais bien ce dont on parle. Quand tu vois que des policiers se font violenter, agresser tous les jours dans notre pays, c'est aussi pour cela que Marine Le Pen et Éric Zemmour ont récolté des voix. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut qu'il y ait un sursaut républicain. C'est très important pour l'avenir de notre pays, pour l'économie française. J'ai publié une interview que j'invite vraiment les auditeurs de Beurre FM à écouter. Je le fais pas souvent, mon cher Adil, mais si je peux en parler, Philippe Latombe, député de Vendée, qui dit: si Marine Le Pen est élue, c'est la ruine de la France garantie.
C'est vrai.
Je pense que malheureusement, il n'a pas tort, plein de raisons. Et donc, si vous voulez, je pense que la question là, c'est pas de savoir si on vote pour ou contre Emmanuel Macron. La question, c'est de savoir, surtout, est-ce que ceux qui sont tentés de voter Le Pen ou Zemmour ne doivent pas se dire au dernier moment, non, finalement, je ne vais pas le faire. Mmh. Et si cette réaction se fait, je pense qu'elle peut perdre quelques points décisifs au soir du premier tour dimanche.
Absolument. Merci mon cher Michel Taube, le patron d'Opinion Internationale, mais également aussi éditorialiste dans les médias. Merci Michel Taube. Et allons voter. À bientôt. Votez. Jimmy Dalidou.
Ouais, non, je veux revenir sur un truc, sur cette notion de sursaut républicain. Pour moi, qui est une notion un petit peu qui veut tout et rien dire, dans laquelle on met un peu tout et n'importe quoi. Michel nous parle de... j'ai pas pu intervenir direct, mais on parle effectivement...
Il est encore là, je crois.
Non, tu disais, Michel, que tu parlais de sursaut républicain et tu faisais le lien avec le fait que des policiers se font agresser tous les jours.
C'est Jimmy Dalidou, le représentant syndicaliste CGT.
Ce que je condamne évidemment, mais tu oublies une chose aussi, enfin tu oublies ou peut-être que tu le sais mais tu le dis pas, mais qu'une partie de ceux qui vont pas aller voter ont pris des matraques par justement certains flics lors des gilets jaunes et dans d'autres luttes sociales. Ça, c'est une réalité sociale aussi. Donc, tu leur dis quoi à ces gars-là? En faisant le lien entre sursaut républicain et défense des forces de répression et c'est ça ou ça c'est
donc
une réalité.
Ils vont c'est-à-dire pas voter pour Le Pen.
Moi, c'est un truc qui me saoule, c'est qu'on a l'impression que ce qui fait tourner ce pays, c'est une élite qui sort des écoles bourgeoises de l'ENA.
Ça a toujours été, aujourd'hui.
Ce qui fait tourner ce pays, c'est la force de travail exploitée dans les process de production, c'est-à-dire c'est le peuple travailleur. Et le peuple travailleur,
Michel,
à un moment,
il peut répondre, Michel.
On les retrouve dans
Michel
les luttes
Taube,
sociales.
Parce que je sais qu'après, il faut que je vous libère.
Ils ont reçu des coups de matraque.
Michel Taube.
Non, il peut y avoir des bavures policières. Il y en a eu et il y en aura. Mais à part ces bavures, lorsque un policier donne un ordre, on le respecte. Le seul pays d'Europe occidentale où on ne respecte pas l'autorité de l'État, l'autorité de la police, l'autorité d'un...
d'accord avec toi.
D'un ambulancier, c'est en France. Et la deuxième chose que je veux dire, puisque notre ami est représentant de la CGT, il n'y a que en France que la CGT fait de la politique. Un syndicat, il a pour
défendre... Dans ce cas, tu dois parler de la Confédération CGT. Ne parle pas des militants syndicalistes à la base.
Sur la façon dont la police doit faire son travail. C'est une confusion,
une amalgame que tu fais et qu'on connaît.
Oui, mais Michel a quelque part raison. On en discutait tout à l'heure d'ailleurs.
Ce que dit très justement
Michel par rapport à la police, et tu as fait une caricature en disant les flics qui mettent des coups de matraque à des millions de Français. Ce n'est pas vrai, Jimmy.
Je te rappellerai la position de Vigipolis pendant les Gilets jaunes.
Oui, mais c'est les mélanchonistes, Vigipolis.
La position de Vigipolis.
Il a fait la politique pour la France Insoumise.
Ils ont clairement dit que là, il y avait une dérive autoritaire.
Mais c'est la France Insoumise.
Il fallait rejoindre les Gilets jaunes.
Mais oui, c'est normal, c'est les scientifiques.
Juste un truc.
Oui. Il y a une contradiction entre. Moi, je voudrais qu'on cesse de faire cet amalgame entre les militants syndicaux qui militent sur des bases de conviction et la position des confédérations. Moi, ce qu'il y a certains. Ça, il faut l'accepter. Il y a des syndicalistes sur le terrain qui n'en ont rien à foutre de la position
Michel
de la confédération et qui savent que la confédération
vous
prend
entendez
des décisions politiques
j'entends,
qui sont inacceptables.
J'entends. Mais je tiens quand même à dire que pour moi le plus important, c'est que si il y avait plus de respect de tout ce qui est autorité d'ordre public qui détient le monopole de la violence légitime, on n'aurait pas des votes de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour aussi importants. Et je pense d'ailleurs pour terminer qu'on en a pas assez parlé dans l'élection présidentielle. On a trop parlé d'immigration et pas assez de sécurité.
Tout à fait.
Si on avait parlé plus de sécurité et de respect de l'ordre, on aurait eu moins la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Merci Michel Taube. Je vais lancer la pub. Merci Michel Taube.
À bientôt.
À très bientôt. On lance la pub. On se retrouve pour le dernier chapitre, la dernière petite séquence, et on va parler des quartiers populaires. Tout de suite avec nos débatteurs influenceurs. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h. Les informés avec Adil Farkan.
Et les informés, c'est avec Katia Burrier, élue à Saint-Maurice, En Marche, justement. C'est aussi avec Bruno Pomard, c'est aussi également, enfin, avec Jimmy Dalidou. Les quartiers populaires, les amis. Le débat continue. Les quartiers populaires, justement, Jimmy Dalidou et Bruno Pomard. Et puis vous aussi, Katia Burrier, vous les connaissez. Pour quelles raisons ils sont les oubliés de cette campagne des candidats, de tous les candidats, mais également aussi, quand je dis les oubliés, vous savez quoi? C'est la question se pose. Est-ce que les quartiers vont se mobiliser? Les habitants des quartiers vont se mobiliser pour aller voter dimanche prochain. Jimmy Dalidou.
Je pense qu'ils vont se mobiliser. Enfin, j'espère qu'ils vont se mobiliser, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, de toute façon, il faut, je pense que, cette approche électoraliste n'est pas une fin en soi. Enfin, pour moi, elle ne l'est pas. Je pense aussi que il y a un véritable problème d'identité dans les quartiers populaires. Ils ont été matraqués ces dernières décennies parce que on leur a fait comprendre que on leur a fait alors quelles que soient les politiques hein, que ce soit droite, extrême droite, on leur a dit que c'était infesté des zones infestées de musulmans. Moi, j'ai grandi dans la cité des 3000 et aussi dans la cité du Clos Saint-Lazare. C'est comme ça que c'est là-bas que j'ai grandi. Donc moi, ce que je constate, c'est que ce sont des quartiers qui sont marginalisés avec des politiciens véreux qui utilisent les quartiers populaires pour dorer leur blason politique.
La gauche a su le faire, ça, d'ailleurs.
Ils sont socialement isolés. Ce sont des jeunes qui ont peu de perspectives parce que ils ont pas de travail, parce que il faut leur donner un espoir social. Il faut qu'il y ait une régénération de, il faut que l'espoir social soit régénéré dans les quartiers populaires. Et ces dernières années, on n'a pas cessé de dire que ces quartiers populaires étaient infestés de musulmans dont le comportement n'était pas en cohérence avec cette république, entre guillemets. Pourquoi voulez-vous qu'ils aillent voter? Voter pour qui? Non. Pour des gars qui leur dit que vous êtes des mauvais musulmans et qui êtes méchants et que vous êtes pas capable de vous intégrer dans la nation française alors que la plupart sont français, sont plus français que la plupart des gars fachos qui leur disent qu'ils sont pas français.
Non, Jimmy, je pense que t'es excessif.
Alors Bruno Pomard, vous connaissez ce sujet.
Ça fait 30 ans que j'y suis, hein. J'y suis pas né, mais je connais très bien Aulnay-sous-Bois pour avoir mené beaucoup d'opérations avec Red Aventure, évidemment.
Il est excessif en disant on stigmatise les musulmans
de façon générale. Non, je trouve que c'est jeter le propre sur nos amis musulmans qui habitent dans ces quartiers et qui sont en nombre, et effectivement. Là, c'est une question de répartition qu'on n'a pas su faire depuis de nombreuses années, mais on a quand même dans ces quartiers beaucoup de valeur ajoutée. On ne peut pas le nier. Ceux qui gangrènent ces quartiers, ce ne sont pas les musulmans. De la façon dont tu parles, c'est un peu ça.
C'est pas moi, c'est la politique qui est en exergue par les différents gouvernements.
Ceux qui gangrènent ces quartiers, c'est les trafics qui existent. le prosélytisme et les trafics. C'est les deux choses qui gangrènent ces quartiers où de nombreux compatriotes musulmans, de toute confession d'ailleurs,
évidemment,
qui subissent toute confession
et la raison, Bruno Pomard.
Qui subissent. Moi,
non, mais ça c'est vrai.
Je connais plus de compatriotes musulmans.
C'est vrai que dans les émeutes,
que de bons franchouillards, comme on dit.
Par exemple, moi, à l'époque, je disais aux gars, que vous soyez en colère. Problème, c'est que c'est une réalité, mais problème, c'est qu'en brûlant la voiture de ton voisin qui est issu de la classe ouvrière.
Les quartiers, c'est pas que les musulmans. Peut-être que
les musulmans.
Mais attendez, c'est pas que les musulmans. Ils ne sont pas tous musulmans.
C'est des Français.
Il y a plein de habitants des quartiers qui ne sont pas musulmans et qui ne pratiquent pas d'ailleurs.
C'est ça le problème.
Moi, sur le nombre de quartiers,
Katia Boyer,
ce sont des musulmans, ce sont des Français, enfin tout simplement.
Exactement. C'est ce qu'il faudrait.
Les habitants des quartiers populaires, les quartiers populaires.
Le problème, c'est que
voilà, ce sont des habitants des quartiers populaires. Après, il y a des choses qui ont été faites pour ces quartiers-là durant le quinquennat. Je peux pas.
Parce qu'il n'y a pas que des musulmans, ça c'est vrai.
Oui, il y a des choses qui ont été faites, les cités éducatives, les quartiers, les
dédoublements de classe.
Exactement. Donc il y a des choses qui ont été faites. Après, c'est peut-être pas suffisant, mais c'est toujours pareil. On récupère une situation. On peut pas tout faire du jour au lendemain. Donc des choses ont été faites, peut-être pas assez de communication pour le dire, mais les gens qui y habitent le voient qu'il se passe des choses dans leur quartier et que le gouvernement essaye d'améliorer. Il y a de l'argent qui a été
bien sûr, 550 millions d'euros. Moi j'ajouterais, ce que Katia est très juste,
c'est qu'il y a 550 millions.
Combien, 550 millions d'euros?
C'est pas beaucoup.
Ça fait quand même de l'argent.
Le tout, c'est 200 milliards planqués dans les paradis fiscaux.
Oui, ne faisons pas le.
Non, mais oui, mais c'est facile. Je te rappellerai que le rapport de McKinsey.
Ça, c'est le rapport rapide du syndicaliste.
Je te rappellerai que McKinsey, c'est 2000 euros par page.
Oui, non, mais j'attends bien encore. On a 1500 quartiers en politique de la ville, 62 en QRR, ces fameux quartiers que tout le monde est en train de renforcer. Parce
vous avez écrit un ouvrage là-dessus.
Oui, le quartier non prioritaire de la ville, effectivement.
Et d'ailleurs, c'est pas Macron qui avait fait sauter le plan Borloo
Je suis d'accord avec toi. Borloo avait fait quelque chose d'exceptionnel du temps de Chirac. C'est la rénovation urbaine, le fameux ANRU, qui a été quelque chose de très intéressant. Moi, je l'ai vu, j'ai travaillé 10 ans sur Corbeil, sur les quartiers. Refaire des immeubles, la propreté dans ces quartiers, les refaire, ça a été très très fort. Ce qui a manqué, c'est le service après-vente sociale. Ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire l'accompagnement social qu'on aurait dû amener. On a fait que de la rénovation urbaine. C'était formidable, mais on n'a pas su accompagner, et l'accompagnement, ça va
dire. Il faut faire l'accompagnement aussi de la rénovation humaine et sociale.
Mais c'est ça.
Il faut faire de la rénovation, régénération humaine et sociale. Il faut leur faire comprendre qu'ils sont partis totalement. Ils sont de la population, ce sont des Français comme
les autres. Personne ne le dit.
Qui ne sont pas différents des autres. Et malheureusement, et là, pour le coup, que ce soit gouvernement de droite comme de gauche,
mais bien sûr,
ils n'ont pas fait leur travail. Même la gauche, hein. Droite comme de gauche. Et moi, je reviendrai sur cette base fondamentale qui est de toute façon, qu'on soit dans les quartiers populaires, qu'on soit en milieu urbain ou en campagne, quel que soit l'endroit où on vit, de toute façon, quand socialement parlant, on est tous à un moment ou à un autre, c'est de l'angélisme social que vous faites en faisant croire qu'on arrivera à construire un avenir certain et un bel avenir dans le cadre du mode de production capitaliste. C'est faux.
Alors quoi, on revient au communisme?
On va passer à un mode de production.
On revient au communisme.
Ça, c'est une réalité sociale.
On nivelle par le bas. C'est pour ça que je crois que
la nationalisation démocratique et populaire, une porte sociale.
Jimmy devrait aller se faire élire chez les Russes là-bas. Le communisme, on a vu ce que ça a donné d'ailleurs. Mais si on nivelle par le bas, tout le haut s'est enrichi. Les Chinois, c'est exactement la même chose. Oui, c'est le communisme que tu parles. On remet tout le monde à plat. Il n'y a plus de richesse, soi-disant. C'est ce qu'on fait en premier. Les Chinois se sont enrichis. On a des oligarques chinois à pagaille. Et en Russie, c'est la même chose. Ils ont piqué les sociétés, ils ont piqué l'argent du peuple.
T'as une loi économique objective qui est là, le degré de développement des forces productives, et que tu le veuilles ou non, l'économie collectivisée est la résultante.
On a besoin de capitalisme, on a besoin de grands chefs d'entreprise.
Qui s'imposera d'elle-même.
Mais non.
Vous êtes dans l'angélisme social.
Mais non. Mais la preuve, le communisme. Mais tu parles comme un communiste de base. Mais si. Mais c'est exactement ça. On nivelle par le bas. Il faut pas de riches.
Nouveau.
Il faut des riches.
Progressistes.
Il faut des riches. C'est ceux qui créent la richesse.
Qui verra le jour par le fait qu'il y a une contradiction entre le degré de développement des forces productives et les rapports de production.
Non. Il faut.
Cette contradiction. Vous êtes dans l'incapacité de.
Ça, c'est parce que tu as pris du parcours sur ce sujet-là. Mais non, c'est pas du tout ça. Non. C'est de redistribuer, je suis d'accord avec toi, de redistribuer. ouvriers, mais on a besoin de riches, de grands entrepreneurs comme les Dassault, comme les Pinot et autres. On en a besoin de ces gens-là. Ils produisent des emplois, produisent tout ce que. Alors ils s'enrichissent. Ah, effectivement, ils sont milliardaires.
Non, mais non, je dis pas que s'engager plus pour gagner plus. Je suis d'accord. Mais est-ce que tu trouves ça rationnel de toucher combien il a touché Musk là, 24 milliards en 24 heures là sur les marchés
financiers. Mais il fait vivre des millions de personnes, Monsieur Musk.
À un moment, il faut être rationnel. Comment
et qu'est-ce qu'on fait? On lui prend tout.
Demande à des gars dans les quartiers populaires justement d'aller travailler pour toucher un SMIC à 1260 euros. Alors que le gars en 24 heures.
Mais il y a plein de gens qui travaillent avec le SMIC, mon cher Jimmy.
24 milliards. Là, Jimmy, on est dans l'irrationalité totale.
Non,
le problème.
Mais non, mais tu vois les deux extrêmes.
Alors,
et il y a plein de gens qui vivent avec le SMIC et qui bossent normalement, qui prennent leur voiture ou le train et qui emmerdent personne et qui. Et
ouais,
qui
mais, ouais, parce
mais
que,
c'est
ouais,
comme
mais
ça la vie.
La dalle à la fin du
mais c'est comme ça. Moi, j'ai pas gagné des 100 et des 1000 en tant que policier et je suis content d'avoir fait un boulot et de servir quelque chose.
Je ne sais pas que cette réalité n'existe pas. Attention.
Bon, on va continuer d'en parler. Vous savez quoi? Je voudrais savoir. Je vous pose une question avant de, évidemment, de retrouver la fin de cette émission. Et j'invite vraiment nos auditeurs à aller voter dimanche prochain. Oui. C'est très important. Votez et encore votez. Katia Burrier, est-ce que les quartiers populaires vont-ils se mobiliser finalement dimanche prochain?
Je le souhaite. J'espère qu'ils se mobiliseront, qu'ils votent ce qu'ils souhaitent. Bien évidemment, c'est leur choix, mais qu'ils aillent voter, qu'ils aillent dans les bureaux de vote, qu'ils se déplacent. Ça, c'est vraiment la première des choses à passer comme message. C'est tout ce que je peux dire. Il faut absolument que les gens aillent voter.
L'abstention vient des quartiers populaires.
Il y a l'abstention. Attention, un risque de faire du mal.
Mais il y en a beaucoup dans les quartiers populaires, dans les raisons.
Il y en a beaucoup. Justement, qu'est-ce que vous dites, vous, Bruno Pomard? Qu'est-ce que vous captez comme dans l'air du temps, justement? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous a rapporté
le désœuvrement, il existe, mais Jimmy l'a dit, effectivement, dans ces quartiers, il y a tout un tas de mots MAUX qui font que évidemment ces quartiers sont hors tout, hors société, hors institution et autres. Bon, ben encore une fois, c'est aux politiques, mais ça dure depuis 1977, la loi Barreau sur le logement déjà, et on refait toute la politique de la ville avec Fadela Amara, Tapi, on en a passé des gens comme ça. La politique de la ville, il faudrait qu'elle ait une vraie définition. C'est vrai que parfois on se demande ce que c'est réellement. Bon, on parlait de la rue, tu l'as dit tout à l'heure, Jimmy.
Qu'il faut redéfinir avec Bourlot, la politique de la ville.
Bourlot avait un plan très intéressant là-dessus, mais il y a une reprise en main de ces quartiers pour pouvoir les aider à émerger, à vivre normalement. Parce que rappelons-nous encore que dans ces quartiers, on stigmatise que sur une minorité qui emmerde tout le monde. Excusez-moi, les trafiquants, ceux qui font du prosélytisme et autres. Mais à côté de ça, il y a plein de gens qui vivent dans ces quartiers, qui animent ces quartiers. Et ceux-là, il faut vraiment les aider. Et il y a deux choses à faire dans ces quartiers. Il y a un vrai travail à faire sur cette insécurité permanente, comme on dit souvent dans ces secteurs, c'est d'un côté la police et intervenir sur les trafiquants, sur tout ce qui se passe de malsain, évidemment, et de notre côté, au niveau social, soutenir les jeunes qui veulent s'en sortir.
Quelle forme d'intervention de la police tu parles?
Mais sur les trafiquants de drogue, il faut taper dessus.
Nicolas Sarkozy en disant que ton boulot, c'était pas de discuter avec les jeunes des cités et que c'était surtout
mais on est revenu en arrière.
De les réprimer.
Jimmy, je te réponds. Darmanin, pour ne nommer que lui, m'a donné une mission hors gouvernement, attention, hein, en tant qu'acteur associatif, parce que je suis plus de 30 ans acteur associatif, avec des policiers, on est 300 policiers à travailler sur le terrain. Alors tu me diras, on est que 300 peut-être aller dans une 150 quartiers en France, mais on va le faire, on va l'intensifier. Il y a des choses qui sont faites, il y a une véritable ouverture qui s'est faite suite au Beauvau de la sécurité, il faut savoir, sur les relations police-population par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Eh bien ce lien-là, moi j'y travaille en tant qu'acteur associatif, hein, j'ai aucun engagement politique, on m'a promis rien du tout, et je ne souhaite rien du tout. Je veux seulement montrer qu'avec mes policiers, on a envie d'aller au-devant, et on va dans plein de quartiers. J'en ai encore aujourd'hui qui sont dans des quartiers, aller faire du contact, du lien, et je peux t'assurer que les parents, les familles, tout le monde nous accueille avec beaucoup de ferveur, et ça c'est important, et c'est comme ça qu'on renouera du lien avec les acteurs associatifs qui sont essentiels au maillage dans ces quartiers. Tu les connais, c'était des 4000 et tout, moi je les connais par cœur ces quartiers, ça et fait 30 ans que
j'ai là-bas, bon, je les connais.
Eh bien je peux te dire que si on est présent, s'il y a le monde associatif qui est présent avec des acteurs et des associations républicaines, on peut faire des choses formidables. Il faut les aider ces quartiers, c'est pour ça qu'on est là.
Jimmy, vous dites quoi, Jimmy?
C'est pour ça que sur le fait qu'il faut créer un lien entre parce que la vision, malheureusement, je suis d'accord avec toi. En fait, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je le dis franchement, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut. J'ai grandi dans.
Il va aimer les policiers.
Je préfère avoir en face de moi un flic qui est sympa, qui avec qui tu peux discuter et qui est humain.
Il y en a plein.
Malheureusement, je pense que tu seras bloqué par une élite en place qui, elle, n'est pas forcément pour lien social entre les flics et la population dans ces quartiers-là.
On arrive.
Pourquoi? Parce qu'après, on revient à cette réalité que la police, en tant qu'institution, reste un outil de répression.
Qu'est-ce que vous dites
qu'est-ce au service que vous des multinationales.
Pour dimanche prochain, en un mot, qu'est-ce que vous dites aux, à celles et ceux qui nous écoutent pour dimanche prochain?
Je pense qu'il faut aller voter, c'est important, mais il faut aller voter avec Bruno. Il faut aller voter avec les tripes et aller voter avec ses convictions.
Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est un devoir républicain que d'aller voter. Donc prenons le temps, effectivement. Et ensuite, on pourra se permettre de revendiquer. Parce que quand on ne va pas voter, à un moment donné, revendiquer, c'est un peu compliqué. Donc
Katia,
faisons cette démarche.
Murier.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Voter. Mais bien évidemment.
Et le message est passé.
Le message, je le passe tous les jours sur le terrain en tant que militante. Toute la population en disant mais allez-y, surtout allez voter
élu. Fait,
avec vos convictions.
Mais merci à Katia Burier, elle est élue sur la ville de Saint-Maurice. Merci à Bruno Pomard.
Merci mon cher Adil.
Au plaisir.
Avec grand plaisir, oui. Très
heureux. On va suivre ça dimanche prochain. Ça va être quelque
oui,
chose.
Oui, moi je vais dans mon petit village d'ailleurs.
Apparemment, il y a des problèmes au niveau des cartes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu leurs cartes électorales.
Oui, ça c'est la poste qui ne fonctionne peut-être pas bien encore.
Merci à Jimmy Dalidou. Merci.
Bah, de rien, Adil. Merci à toi.
Merci à la réalisation Yanis. Dimanche, oui. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, les amis? Vote, mon pote, exprime ton opinion.
Vote, mon pote.
Exactement.
Ouais, c'est bien.
Absolument. Vote, mon pote, exprime ton opinion. Dimanche prochain. Il ne faut pas manquer ce devoir civique. À lundi, et peut-être certainement à dimanche soir. Mais portez-vous bien, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.